entre les musulmans et les chrétiens orientales. Je réfute totalement cette
idée. Moi, c'est pour aussi, au Kashanga, je pense que en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci à tous d'être des nôtres. Radio Okapi vous accorde à nouveau la parole dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Deux semaines après la fin des épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'ESSEC procède déjà à la publication des résultats. Selon les ministres de tutelle, par rapport à l'année passée, nous avons, comme il l'a dit, senti une régression de plus ou moins 6%. Cette année, nous avons 33% de réussite dans la ville de Kinshasa contre 69% en 2011. Voilà que, disons, ce sujet qui sera au cœur des débats de ce jour. Comment réagissez-vous par rapport à ce résultat? Le débat est ouvert. Nous avons invité à cet échange et partage de 57 minutes Djamba Kaombé, inspecteur général à l'EPSP. Inscrivez-vous déjà pour participer à ce débat et faites-nous parvenir vos critiques, questions et préoccupations en composant 0 81 890 63 15. Vous pouvez également nous rejoindre à notre courriel pa@radiocapi.net et vous avez aussi la possibilité de poster vos réactions sur notre page Facebook. Kouti Koutou, Jean-Noël Mokondo et Pierrot et la Mégie réalisent cette émission. J.R. Mungembo vous la présente et Nicole Ngata est à la supervision. Bienvenue à tous.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, dans le Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, dans le Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Mungembo.
Je venais de le dire tout à l'heure, deux semaines après la fin des épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'EPSP procède déjà à la publication des résultats. Nous avons invité cette émission Djamba Kaombé, inspecteur général à l'EPSP, pour nous faire une idée sur la poursuite même de cette publication. Bonjour, monsieur Djamba.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, c'était un record qui a été battu aujourd'hui, tout le monde en parle, la publication des résultats de l'examen d'État 2012, au moins de 15 jours après la fin des épreuves. Voilà, c'est un record jamais réalisé depuis 45 ans, année du lancement de l'épreuve nationale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les comptes du succès et de cette rapidité ou de cette promptitude?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je porte un récapitulatif. Ce n'est pas 15 jours. Mais c'est en 10 jours que nous avons commencé à publier les résultats des examens d'État. Ce sont 2011-2012, c'est 10 jours.
Voilà, donc c'est dans 10 jours, c'est quand même un record.
C'est un record, bien sûr. Le record est dû au fait que nous, à l'EPSP, spécifiquement à l'inspection générale, au Centre national de correction, nous vivons déjà la révolution de la modernité depuis 2007 avec la correction informatisée instaurée par le gouvernement de la République à travers l'impulsion de son excellence, le ministre Mathieu Mong. Aussitôt après son arrivée à ce ministère, il a instauré le système de correction informatisé. Et nous allons d'amélioration en amélioration. Et cette année-ci, nous avons eu à acquérir de nouveaux scanners. Ce qui a fait que la capacité de captage de copies réponse des candidats était supérieure par rapport à celle de l'année passée. Il y a aussi un élément important à signaler, c'est l'acheminement à temps de toutes les mâles des années d'état de province vers le Kinshasa. Cet acheminement s'est réalisé en plus ou moins 12 jours. En 12 jours, toutes les mâles de l'intérieur, même du fin fond de la République, étaient déjà ici à Kinshasa, ce qui a accéléré le rythme du travail au niveau du dépouillement et du traitement informatique. Donc il y a l'acheminement à temps de mal, et puis il y a aussi l'acquisition de nouvelles machines, sympa neuves, au Centre national de correction, qui est une grande volonté politique du gouvernement de la République.
Voilà, monsieur l'inspecteur général, on sait que c'est vrai, le ministère a battu le record dans la publication des résultats 10 jours après la fin des épreuves de l'examen d'État, mais on a constaté qu'il y a des échecs autour même des meilleurs élèves.
Les échecs sont faits pour les hommes, hein, les échecs ne peuvent qu'exister depuis que les études existent. Les échecs par rapport à la vie de Kinshasa. L'année passée, nous avions 69% de réussite pour la ville province de Kinshasa dans les options non techniques. Il s'agit des options telles que latin, philo, mathématiques, physique, chimie, biologie, programme commercial, hôtel d'accueil et art plastique. Ce sont ces options-là. Il ne s'agit pas des options techniques, industrielles, agricoles, coopératives et ainsi de suite. Donc, c'est des options non techniques qui ont fait 63% contre 69% l'année passée.
Voilà. Alors, on a également remarqué le faible pourcentage dans certaines écoles pilotes, dans certaines écoles phares de la capitale.
Les téléjournalistes et les journalistes ici ne se ressemblent pas. Les 100%, nous devons nous défaire du mythe de 100%. Les 100%, ce n'est pas une marque déposée. Les 100%, c'est le fruit du travail des élèves. Nous avons constaté depuis un certain temps que nos apprenants dans les écoles ici à Kinshasa, et même à travers la République, ont pris l'habitude de dormir sur leur laurier. Ils se disent non, même si on ne fait rien, notre école a toujours fait 100%. Pour parler le langage chinois, l'école n'a dit que ça n'a qu'à 100%. Donc pour eux, c'est une marque déposée. Ils croient que c'est un cachet qu'on leur a donné. Les années qui suivent ne se ressemblent pas. Ce ne sont pas les mêmes apprenants de l'année passée qui avaient fait le 100%, qui vont encore revenir faire le 100% toute année suivante. Ceux de l'année passée sont partis. Le 100% c'est de cette année-ci, c'est le fruit des efforts des apprenants de cette année. Mais c'est le mythe de 100% dans les têtes de nos apprenants. En tout cas, ils doivent se débarrasser de ce mythe-là. Le 100%, ce n'est pas une marque de projet, ce n'est pas un cachet qu'on donne au préalable pour dire que ces écoles-là ne feront que le 100%.
Voilà,
le 100%, c'est le fruit des efforts annuel de chaque promotion.
Voilà, M. Jamba Kaoumbi, vous êtes inspecteur général à l'EPSP. Nous allons voir si cet avis est partagé également par les auditeurs qui sont déjà en ligne et qui nous ont rejoints. Il y a Benjamin qui est à Bounia, Emile et qui est à Lubumbashi. Nous allons leur accorder la parole. Mais tout en vous rappelant, chers auditeurs, que nous parlons de l'examen d'État, des épreuves. Donc, deux semaines après la fin des épreuves, le ministère de l'EPSP procède déjà à la publication des résultats. Et au regard d'ailleurs de ces résultats, on a constaté que au niveau d'ailleurs du taux de réussite dans la ville de Kinshasa, il y a une réduction de pratiquement 6%. Alors qu'en est-il des résultats au niveau des provinces? Et bientôt on aura des résultats dans l'ensemble du pays et on aura une idée générale sur la réussite, le taux de réussite dans l'ensemble du pays. Mais vous pouvez également nous faire parvenir vos réactions, suggestions, préoccupations et pourquoi pas vos questions à notre invité en composant bien entendu le 081 890 6315.
Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Benjamin, vous êtes à Bounia. Bonjour, Benjamin. Voilà, Benjamin, comment réagissez-vous par rapport à ces résultats?
Bon, ça ne me surprend du tout pas parce que ici à Bounia, les élèves ont l'habitude de monter des classes supérieures. En achetant des utilités. Donc, arrivé à 6e année, on a pratiquement rien acquis. C'est normal qu'on ait fait le dernier d'État parce que là, il n'y a plus moyen de faire des coffres, des corrections, comme on appelle ici. Et puis, on peut retenir que les élèves de 6e année ici à Bounia sont les plus indisciplinés. Je pense qu'être à 6e année veut dire être à l'abri de toute faction. Et doivent faire ce qu'ils veulent. Je vous dis que ce sont à partir des fois des écoles, on prépare les examens d'État. Mais ils sont vraiment des petits, ils donnent des mauvais exemples assez cadés.
Voilà, merci Benjamin. Donc nous résumons que selon vous, l'échec là est attribué à la négligence des finalistes. Ils ne se sont pas donné corps et âme à se préparer à ces épreuves de l'examen d'État. Et voilà que les résultats ne pourraient qu'être ceux-là. Voilà, donc vous encouragez les jeunes à ne pas négliger la formation en sixième, mais qu'ils retiennent aussi une chose, que la formation, disons, l'examen d'État ne se prépare pas en sixième. C'est depuis l'école primaire qu'on se prépare à ces épreuves. Merci Benjamin. Émile, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, M. Gérard, bonjour à l'invité.
Voilà, Émile, comment réagissez-vous?
Bon, je commence d'abord à passer une information. Il y a une demoiselle qui a rendu l'âme suite à un accident. Elle est une nouvelle diplômée. Elle a décroché son diplôme d'État, alors elle s'est réjouissée. Malheureusement, elle a été cognée par un taxi bus et elle est morte le lundi passé.
Voilà, les autorités ont condamné même certains que son âme repose en paix, mais il faudrait retenir que les autorités ont tapé du poing sur la table pour dénoncer hein, tous ces cas de dérapage, les jeunes gens qui, par rapport à leur euphorie, nous livrent quand même des spectacles un peu désolants après la publication. Voilà, donc merci Emile de nous avoir donné cette information, mais comment réagissez-vous par rapport au sujet?
Bon, par rapport au sujet, je veux dire que vous savez, quand vous êtes en face de finalité, vous classez demain, il fait toujours des critères pour passer des promotions à ce matin, je ne veux plus échouer, pour lui échouer, c'est une autre chose, il s'est débris, il fait à tout prix payer le budget ailleurs pour aller étudier dans d'autres établissements. Cela contribue aux échecs. Et je vais demander aussi, ça dépend aussi de la manière, la façon dont les enseignants dispensent les cours. Il y a des enseignants, vous allez retrouver un enseignant qui se retrouve dans 4 établissements scolaires dont il dispense cours. Est-ce qu'il est en mesure de préparer pour satisfaire tous les établissements dont il dispense cours, tous ces élèves-là? Je ne pense pas, cela est dit aussi à cela. En fait, la responsabilité aussi est de la part des parents qui favorisent la correction. Ils ne veulent plus que leurs enfants, quand un enfant échoue, vraiment, même des parents irresponsables qui font à tout prix, qui cherchent à tout prix que leurs enfants réussissent. Ils contribuent aussi à ce échec. Permettez-moi de saluer mon papa, Tune Balimati, Emile.
Voilà, merci Emile. Merci.
Tous les parents étaient con.
Merci Emile de Lumbashi. Rajabou, vous êtes à Kindu. Bonjour Rajabou.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, Rajabou. Bonjour. Oui, comment réagissez-vous?
Bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Oui, allez-y Rajabou, comment réagissez-vous?
Bon, c'est une très bonne chose d'avoir publié le résultat de l'exécat.
10 jours après.
Ah, oui, 2 semaines après. C'est une très bonne chose. Et notre inquiétude, c'est au niveau de la qualité des élèves qui sortent des écoles après les 2 semaines-là. Quelle est la qualité? Parce que vous allez voir l'élève qui est entré dans une belle classe, il est entré de passer d'une manière frauduleuse les années inférieures, arrivé en 6e, il a son diplôme. Avoir donc 60, ou bien la partie des élèves qui n'ont pas eu beaucoup de résultats cette année, ce n'est pas d'impact. Ce qu'on a besoin, c'est la qualité des élèves qui sortent des élèves.
Oui, Rajabou, quand vous parlez de la qualité, donc vous voulez que la correction puisse, que le ministère puisse procéder à la correction, disons pas dans la précipitation, hein, sinon ça risque d'entamer même la qualité des élèves qui pourraient avoir des diplômes.
Oui, et c'est ça, parce qu'il faut beaucoup miser sur la qualité des élèves qui sont de ces résultats-là. C'est ça la préoccupation. Et puis, il faut aussi voir la qualité des enseignants qui donnent cours. Tout ça, ça tourne autour du fruit. Parce qu'on ne peut pas être là en train de dire que non,
Oui, le résultat est faible.
Il y a un résultat en fait de temps. Mais la qualité, monsieur.
Voilà. Oui, merci Rajabou. On va voir si Modeste abonde aussi dans le même sens. Modeste, vous êtes à Calémi. Bonjour Modeste.
Ah bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité.
Oui Modeste, est-ce que vous partagez l'avis de vos prédécesseurs qui ont évoqué des responsabilités des parents et aussi les responsabilités des enseignants? Aujourd'hui, notre enseignement est au rabais, d'autant plus que les enseignants se livrent où ça donne à l'extramorose, ils sont dans 4 ou 5, 6, voire même 6, 6 écoles où ils enseignent, et les parents qui, en fait, sont devenus des irresponsables en favorisant, en fait, en encourageant également le suivi au niveau des classes terminales, la qualité est décriée par Rajabou et aussi la négligence de certains finalistes. Est-ce que vous partagez cet avis, Modeste?
Oui, je dis, toutes ces raisons là sont quand même correctes, mais moi je vais aborder ce sujet dans trois sens. La première responsabilité incombe aux élèves. Je vous dis, il y a certains élèves, quand vous, par exemple, de chez nous à Calémie, qui font des vagues d'abondage scolaire, et vous dites, non, cette année, je vais aller faire la sixième au collège, par exemple, le collège Mangaza, parce que là, on fait des 100%, ou je vais à Mayanga, parce que là, on fait toujours des pourcentages. Tout le monde passe sans problème, dès que vous êtes en sixième, vous passez sans problème. Alors, cet esprit-là, cette attitude, ce comportement que les enfants ont adopté pendant certains moments, font à ce que les enfants se souffrent souvent en sixième. Donc, ils ne sont pas là, ils n'étudient plus, c'est que non. Si j'étudie la cinquième ici, je vais au collège, mon lève de l'école, j'aurai mon diplôme d'État. En tout cas, ils se créent une certaine confusion dans leur tête. La deuxième des choses, peut-être, la deuxième responsabilité incombe à l'école aussi. Enfin, je pense que les préfets doivent faire un effort à ce que les enseignants arrivent ainsi à achever le programme. Parce qu'il y a des écoles où vous étudiez, les enfants n'ont pas même achevé le programme, ils sont là. Les professeurs de géologie, non, comme vous êtes en sixième, vous allez vous débrouiller. Donc, ça devient en tout cas un désordre total. Et la première responsabilité aussi, je devais dire aussi de l'État. L'État qui doit penser quand même à motiver les enseignants, parce que c'est pas possible. Vous savez, le ventre creux, vous connaissez la suite là. En tout cas, l'État aussi doit penser quand même à motiver les enseignants.
Voilà,
afin que ces derniers assument leurs responsabilités.
Comme il faut. Voilà, merci Modeste d'avoir appelé les Calémies. Et un petit coucou à tous ceux qui nous suivent à Calémies. Donc, si nous pouvons résumer vos propos, selon vous, les résultats que nous avons aujourd'hui reflètent réellement le niveau des élèves. Voilà, on va voir avec Djamba, qui est l'inspecteur général à l'EPSP. Monsieur Djamba, vous êtes en ligne, vous avez suivi tour à tour les interventions des uns et des autres. Comment réagissez-vous, Monsieur Djamba?
Oui, monsieur le journaliste, je suis très content que les auditeurs aient cherché l'accès. Parce que je retiens ici un auditeur qui a parlé du passage irrégulier de classe. Ce que nous appelons chez nous des élèves migrateurs. Ils passent dans 5-6 écoles avant d'arriver en 6e. Nous devons interpeller les parents. Un échec scolaire, ce n'est pas une fin en soi. Lorsque l'enfant a échoué, obligez-les à reprendre pour qu'ils fassent mieux l'année prochaine. Mais aujourd'hui, les parents ne veulent pas entendre d'une seule oreille que leurs enfants doivent reprendre une classe au cours du cursus scolaire du scolaire. L'échec, c'est normal, on peut échouer, on récupère l'année prochaine. Mais les parents congolais, tel que l'a dit un auditeur, n'acceptent jamais que les enfants reprennent leur classe. Ils s'arrangent à acheter des faux bulletins et ils font passer leurs élèves, leurs enfants de classe d'une année à une autre et nous nous retrouvons en sixième avec des semi-lettrés, des gens qui savent à peine écrire leur nom et qui savent à peine s'exprimer. Donc nous devons faire émotion de ce côté-là et les parents et les pouvoirs organisateurs que nous sommes. Et nous venons de signer un contrat avec la Senapi qui va devoir livrer les bulletins scolaires pour éviter mettre fin à cet achat de faux bulletins à travers la République.
Oui.
Il y a aussi la négligence des finalistes. Ça, oui. Quelqu'un l'a dit. Il y a l'indiscipline. Les élèves doivent être disciplinés.
Oui, parce que quand on est en sixième, on
peut pas. Vous constatez que juste après la dissertation, c'est la fin de l'année scolaire. À la dissertation, nous sommes aux trois quarts du programme. Le dernier cas du programme n'est pas encore achevé. Les élèves sont en vagabondage, ils sont dans les maquis, ils disent c'est fini, vive l'indépendance, rendez-vous au centre d'examen de temps. Avec le dernier quart de la matière non vue, ça aussi peut conduire aux échecs. Donc je rejoins totalement le point de vue de
monsieur Djamba.
Je parle de la phase irrégulière, de l'immigration des élèves, de leur négligence, de leur indiscipline. Et surtout les points scolaires, il y en a qui ne présentent pas les points scolaires et les examens de fin d'année. Ils croient que ce sont des points qui n'entrent pas en ligne de compte, alors que ces points scolaires comptent sur 50% dans l'attribution du diplôme. Comment voulez-vous qu'un élève finaliste, qui vient à l'université d'État, au départ, au niveau de son école, il a déjà 45 ou 46 pouces au niveau de l'école en évaluation interne? Et qu'est-ce qu'il peut faire au niveau de l'évaluation externe qui est l'examen d'État? C'est lui un métier qui est joué.
Oui,
donc il y a aussi
de la compétence. Oui, oui, voilà. Monsieur Djamba, on va revenir à vous, Monsieur Djamba. Il est temps pour nous de prendre quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes. Hein. Nous, certains des observateurs laissent entendre que c'est vrai que les résultats sont sortis à être en record, mais la délibération n'a pas eu lieu. En tout cas, ça, c'est l'invité qui nous donnera quelques précisions là-dessus. Matoko, vous êtes en Bantangungu, vous êtes enseignant. Bonjour, Matoko.
Monsieur le journaliste.
Oui, alors comment réagissez-vous?
Oui, je voudrais aborder dans le même sens que les prédécesseurs. Je soutiens que le chèque scolaire comme celui à l'examen d'État reste un échec d'une relation entre les acteurs éducatifs. L'élève lui-même, l'école, le parent et l'État. Mais à ce stade, j'ai toujours la même impression que c'est l'élève qui est sanctionné. Et les systèmes de l'école, comme micro-structure, presque pas de sanctions. On incrimine les parents qui ne encadrent pas suffisamment les enfants, encore une discrimination. Mais l'État lui-même, ses propres responsabilités vis-à-vis du système. Aujourd'hui, nous avons dans ce pays des écoles qui ont des pyramides totalement renversées. Vous avez des classes de première année qui n'ont presque pas d'enfants, et puis vous arrivez en sixième année, ce sont des grands effectifs. C'est une force pédagogique quand même. Et le traitement que ces enseignants reçoivent, est-ce que est-il motivateur? C'est un point. Et revenons au système lui-même de correction. Nous encourageons et nous félicitons les ministres pour les records atteint jusqu'à ce jour dans la publication des résultats, ce qui est très positif. Mais nous sommes d'avis que l'examen d'État, il reste un examen différent d'un concours. Par conséquent, il faudra que les ministères, les systèmes qui organisent, puissent mettre des structures de suivi pour que les élèves ne perdent pas une année scolaire ou qu'ils ne perdent pas tout un cursus pour des simples erreurs matérielles qu'un service spécial pouvait vérifier plus tard. Monsieur l'inspecteur devant vous, peut-être le savoir, qu'il y a des élèves brillants, tout à fait brillants, qui ratent l'examen de temps à cause de petites erreurs matérielles.
À cause de petites erreurs matérielles.
Vers cette dimension-là de l'évaluation, pour que l'examen d'État reste avant tout un examen et non un concours où l'administration ou je ne sais pas quoi prime sur le contenu même de l'évaluation. Merci, voilà ma petite conclusion.
Oui, merci Matoko d'avoir appelé le Mbazangungu. Nous résumons que selon vous, il y a certains élèves qui sont qui échouent par erreur matérielle, par une simple erreur matérielle qui peut se venir du côté des organisateurs. Il faudrait que les organisateurs tiennent compte de cet aspect, que l'examen d'État reste un examen et non un concours. Voilà, notre invité est en ligne pour répondre à votre préoccupation d'un moment à l'autre. Robert, vous êtes à Kananga. Bonjour Robert.
Bonjour, monsieur le journaliste Robert Kenda de Kananga.
Oui, alors, allez-y, Robert.
Oui, je voudrais aborder ce sujet par des situations qui ont fait à ce que cette année-ci, il y ait baisse aux examens d'État.
Oui, allez-y, Robert.
Oui, la première cause, c'est de la politique. Vous avez vu, monsieur le journaliste, lors des élections, 2011, il y a des élèves qui n'ont pas suivi tellement les cours parce qu'il y avait deux semaines.
Oui, il y a eu arrêt de cours pendant deux semaines, mais qu'on a dû récupérer. Le calendrier a été ajusté par rapport à la circonstance.
Et il y avait des conflits interethniques partout là. Les élèves ne se présentaient pas comme ça au cours. Et cela a été une cause qui a fait à ce que je baisse. Et la deuxième cause, nous avons vu dernièrement ici, on avait interdit la pratique magique. Mais, à notre grande surprise, nous avons vu les élèves entrer dans les magies. Et si nous regardons bien dans ces magies-là, les élèves n'étudiaient pas, ils passaient seulement pour jouer, faire du n'importe quoi. Alors, c'est ce qui a fait acheter cette année-ci qui n'est pas assez vraiment de résultats escomptés. Ça, au moins, le problème que j'ai vu moi cette année-ci.
Oui, merci Robert d'avoir appelé les Kananga 081 890 63 15 pour que vous puissiez réagir par rapport à ce sujet qui est débattu dans cette émission. Donc deux semaines après la fin des épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'FSP procède déjà à la publication des résultats, mais dans l'ensemble déjà il y a eu une réduction de 6% par rapport aux résultats de l'édition passée à Kinshasa. Nous avons d'ailleurs dans ce studio donc en ligne notre invité Djamba Kaombe, inspecteur général à l'EPSP qui pourrait répondre à vos préoccupations. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous en composant bien entendu le 081-890-6315.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, l'heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient de lundi à vendredi de 11 à 2h et mercredi de 10h, l'heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et si vous nous rejoignez, bienvenue. Matoko parlait tout à l'heure des erreurs matérielles qui peuvent survenir lors des corrections. Robert a parlé de la politique qui a joué également à ces échecs déjà enregistrés. Djamba Kaombe, inspecteur général à l'EPSP, comment réagissez-vous par rapport à ces occupations, à ces préoccupations?
Oui, monsieur le journaliste, erreurs matérielles au niveau des apprenants, des élèves, oui. Les examens d'État est corrigé par voie informatique. J'ai toujours dit à ceux qui veulent m'entendre que l'ordinateur est une machine très intelligente et en même temps très stupide, très bête. Nous passons tout notre temps à inculquer à ces jeunes gens des codes à 14 chiffres qui doivent mettre sur leur copie d'examen. Et c'est ce code-là que l'ordinateur reconnaît. Mais il y en a qui s'amusent à mettre n'importe quel code, il y en a qui s'amusent à recopier les codes de leurs voisins. Et quand ils arrivent au niveau de la correction, certains codes sont ignorés par l'ordinateur. Donc ça, c'est dans le camp des apprenants, pas dans notre camp. Donc nous demandons aux chefs d'établissement de pouvoir encadrer leurs élèves et leur demander de mémoriser ce code-là. Donc ce code est même imprimé sur des macarons. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez crier du matin au soir, ne faites pas ceci. Et le soir, il fait juste le compte de ce que vous lui avez demandé de ne pas faire. Le code informatique à 14 chiffres est imprimé sur les macarons. Mais souvent, ce qu'ils mettent sur leur cahier du thème, sur leur copie de réponse, c'est tout à fait autre chose qui est inconnue de l'ordinateur. Et nous sommes là depuis 4 ans. Cette pratique devait être déjà maîtrisée par les candidats et les chefs d'établissement. Mais curieusement, nous arrivons toujours à des erreurs comme ça. C'est comme si les gens n'ont pas une bonne oreille pour suivre les consignes. Nous donnons toujours ces consignes. Et pire encore ici à Kinshasa, vous verrez à la veille de l'examen d'État, les jours de la répétition générale, là où le chef de centre reçoit tous les candidats pour leur montrer leur place et même reprendre le numéro informatique. Les candidats ne viennent pas. Ils s'improvisent seulement au jour même de la session de matin en train de chercher le centre. Awa, awa, te, awa, awa, te. Et c'est ça. Donc, ils doivent faire un effort pour retenir ce code. Le point de vue politique, quelqu'un a parlé de la politique. Ça, c'est un langage que lui-même, hein.
Oui, qui avait perturbé le calendrier scolaire. À cet moment, il y a eu deux semaines, les élèves.
Il y avait un calendrier réaménagé.
Réaménagé, voilà. Donc,
nous avons réaménagé un calendrier.
Et ça ne pouvait pas être.
Les enseignements, soit tout à fait dispensé dans toutes les écoles. Bon, par rapport au pourcentage, Kinshasa est parti de 69 à 63. Ça, c'est le pourcentage de l'année passée aussi. Là, il y a des provinces qui se sont améliorées. Katanga, par exemple. Katanga 1, le Lubumbashi, ses environs. L'année passée, ils étaient à 67%. cette année-ci vient de faire plus ou moins 70%. Vous avez la province comme le Bas-Congo, l'année passée à 69%, mais cette année-ci sont à 72%.
Oui.
Donc la réduction de 6% par rapport
à Kinshasa,
ça n'affecte pas les autres provinces.
Oui, monsieur l'inspecteur,
parce que le de toute la République, parce que nous sommes que à 14 provinces éducationnelles sur 30 provinces éducationnelles. Donc nous ne pouvons pas tellement nous fier aux chiffres. Il y a des provinces qui peuvent faire mieux à l'avenir et changer complètement le pourcentage général. Donc le 69 à 63, là, ne concerne que la ville province de Kinshasa et par rapport aux options non techniques.
Oui, merci d'avoir apporté cette précision, monsieur l'inspecteur général. Mais d'aucuns parlent de la délibération qui n'a pas eu lieu, raison pour laquelle, au lieu des 15 jours, comme dans les éditions passées, cette année, les résultats ont été publiés 10 jours après. Beaucoup d'inspecteurs ont été surpris, en tout cas selon eux. La délibération n'a pas eu lieu, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ont été réalisées à la hâte, et voilà que les résultats ne sont pas acceptés par les uns et les autres.
Bon, ça, ce sont des méchantes langues. Hein. La délibération, elle est tenue par un jury. Et lorsque le jury siège, on ne peut pas se mettre sur la voie des ondes pour dire qu'il faut pas venir, il y a délibération. Je dis, ce n'est pas un match de football. La délibération se tient à huis clos et par des personnes attitrées qui prononcent leur verdict en secret. On ne peut pas se mettre sur toutes les ondes, aller dans un stade de football pour appeler tout le monde à venir assister à la délibération. C'est un secret. Le jury siège en secret et prend les décisions qu'il communique.
Oui, en tant que président. Oui, monsieur le secrétaire.
Nous ne pouvons pas aller à la complaisance
d'appeler
des choses pour gagner quoi? Détruire la République, détruire l'enseignement. Et je vous dis là que ce sont des méchantes langues, monsieur le journaliste. Nous connaissons bien, très bien notre ville de Kinshasa. Il y a plein de Balobiens et de Balobiens, mais il ne faut pas se fier à eux.
Voilà, monsieur l'inspecteur, si en temps réel, la délibération prend combien de jours après la correction?
Non, mais tout est automatisé pour le moment.
Même la délibération.
Le scanner, c'est l'opération qui consiste à photographier les réponses du candidat. Dès que les réponses sont photographiées, scannées, vous introduisez le corrigé. À la minute, vous avez le corrigé de score. Vous avez le score de tous les candidats. À la minute, vous pouvez demander à l'ordinateur de vous présenter le pourcentage. Donc, ce n'est pas une affaire de semaine ou de mois.
Voilà.
Mais tout est vraiment automatisé.
Donc, donnez-nous
les statistiques en termes de candidats qui ont obtenu entre 70% et 60%. Les machines vous les donnent. Nous avons été avec votre consoeur de Ville-Visage. Elle était impressionnée par les machines qu'elle a vues dans nos installations. Ce sont des installations, des machines très très sophistiquées de dernière pointe.
Voilà. Monsieur le
La délibération, ce n'est qu'une séance. On présente les statistiques et le jury apprécie ou modifie les critères. La délibération, ce n'est pas.
Donc la délibération a bel et bien.
En 2 ou 3 heures, on peut délibérer parce que le tout est présenté sur le tableau informatisé.
Voilà. Donc si je comprends bien, la délibération a bel et bien eu lieu.
Oui, je peux même vous donner la date, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup.
Nous sommes réunis le lundi 2 juillet.
Le lundi 2 juillet.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup parce que les résultats sont sortis le 10 juillet, donc 8 jours après. Alors, nous allons poursuivre avec les auditeurs qui sont en ligne. Félicien qui est à Kinshasa, Jean-Pierre qui est à Bukavu. Mais d'abord, une question de précision. Aujourd'hui, on a remarqué à Kinshasa plusieurs écoles catholiques, en tout cas des écoles pilotes, hein, des écoles phares, qui ont fait des résultats qui ne sont pas fameux, des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et il y a eu même des recours qui ont été introduits selon l'information de notre procession, sur la table du ministre, il y a quand même une montagne de recours, et sur votre table également, est-ce que vous allez réserver, disons, une fin de non-recevoir à tous ces recours, ou bien vous allez vraiment examiner ces cas de recours?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous parlez des écoles catholiques, c'est comme si l'État congolais était un État catholique. L'État congolais, c'était un État laïque. Et ça, nous corrigeons les copies, nous les corrigeons dans l'anonymat. Il n'y a pas de copie pour les élèves des écoles catholiques, des écoles protestantes, des écoles kimbangistes. Je vous dis qu'il y a 8 réseaux d'enseignement. Nous corrigeons ces copies de manière anonyme. Si quelques écoles catholiques ont commis des déboires par-ci par-là, nous revenons encore à ce que je vous ai dit dans mon introduction. Le mythe de 100%. Nous devons nous défaire de ce mythe de 100%. Hein? Et 100%, les élèves les mettent comme un bonnet, comme un chapeau. Il faut se défaire.
Donc, sur votre table, il n'y a pas de recours.
Le recours, nous le recevons. Il n'y a personne qui accepte un échec. Même les plus stupides de la classe. Nous avons examiné certains recours. Quelqu'un qui a fait 48% dans son école, où il a passé 6 ans des humanités. Son école lui a donné 48%. Il échoue à l'examen d'État. Et il introduit un recours.
Alors nous prenons les cas, par exemple, pour ne pas les citer, Bossomi, Moamba, des écoles qui, autrefois, faisaient quand même la fierté de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, si ce n'est pas indiscret?
Je ne suis pas devant mes machines, je ne suis pas devant des documents. Je dis, bon, si les recours sont là, nous allons devoir les examiner en son temps et nous allons soumettre les conclusions au jury qui est un organe indépendant et souverain. Que ce soit à moi de pouvoir...
Tout à fait. Oui, monsieur le secteur, si ces recours sont fondés, est-ce que ces résultats pourraient être corrigés?
Mais que le jury se prononce en son temps, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Félicien.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment réagissez-vous par rapport à ce sujet?
Non, mais je suis très indigné. J'ai constaté que dans ce pays, les gens ne sont pas en fait lutter contre les antivaleurs. Et on continue avec la même culture. On veut vraiment à tout prix que ce pays ne décolle pas vraiment. Et vous pouvez comprendre que les gens mettent beaucoup d'attention sur la rapidité avec laquelle le résultat a été communiqué après deux semaines après les semaines d'État. Et ils ne mettent pas l'accent sur la qualité des enfants qui ont été formés. Et quand on dit comment les écoles catholiques qui sont recrutées peuvent avoir un résultat comme ça, et les députés répondent que l'État congolais n'est pas un État catholique, c'est laïque. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Ici, quand vous citez les écoles catholiques, nous tous nous savons que ce sont les écoles qui forment encore mieux les enfants aujourd'hui, après tout le désastre que l'enseignement a produit dans ce pays. On peut encore former sur des écoles catholiques. Ce n'est pas un problème de l'État catholique ou l'État laïque. Et il ne peut pas répondre aux gens comme ça, parce qu'ils existent, ils sont des citoyens, et il ne peut pas répondre sans ménagement. Donc,
oui,
moi, je pense que le travail était mal fait. Il y a à boire à manger dans ce
Donc, quand vous dites, Félicien, le travail est mal fait, à quel niveau? Au niveau des organisateurs ou bien c'est au niveau des écoles qui organisent les enseignements d'une manière locale?
Mais vous avez bien posé des questions. C'est des réponses qui ne sont pas correctes par rapport aux questions que vous avez posées à l'université. On parle de temps de délibération. Il n'a pas eu de délégation. Le monsieur qui vous parle là-bas, c'est lui là dans son bureau, et tous ses collègues et lui, ils savent qu'ils n'ont pas fait de délégation. Et quand il vient à la division, il veut dire on a fait des délibérations, on a fait ceci, cela. Et c'est ça les actions.
Voilà, c'est Félicien.
Tout le monde veut flatter. Personne ne veut dire la vérité, même s'il doit faire son poste à cause de la vérité.
Voilà, donc Félicien, je crois que personne ne possède la vérité ou les détenteurs de la vérité. Vous non plus, moi peut-être pas, parce que nous ne sommes pas dans les secrets de l'industrie.
Hein.
Oui, allez-y rapidement parce qu'il y a, je ne sais pas qui attend.
La présentation a beaucoup de raisons parce que la publication de ces résultats est rapportée quelque chose de la part de Vodafone et on est pressé d'avoir de l'argent de Vodafone et on néglige le travail qu'on devait faire pour les enfants. Il y a des erreurs et on a honte de reconnaître qu'il y a des erreurs parce qu'on a de faire des critiques. Donc moi je pense qu'on doit rentrer dans la voie de la culture, de la vérité, de notre député et combattre les antivaleurs dans tous les cas. Ces enfants-là qui ont joué aujourd'hui en masse,
dans l'air maquille, partout. On a vu les systèmes circuler. On a les enfants qui ont des systèmes qui sont en train de crier, mais c'est tout ce qu'on a vu dans le maquille, tout ça. Et après, ils échouent en masse.
Oui, bon, monsieur Félicien.
On améliore la qualité de l'enseignement.
Tout à fait. Oui, Félicien, pour votre gouverne, le ministre Macaire a même reçu une délégation de parents d'élèves qui ont échoué en maths. Hein. Il est prouvé noir sur blanc, en tout cas, selon les informations que nous avons. Quelle est la cause de l'échec de ces enfants? Nombreux sont ceux, comme vous venez de l'évoquer, avaient des items déjà la veille et le jour même de l'examen, ces items ont été changés, alors ils ont été surpris tous dans la même salle. Donc, merci beaucoup, Félicien, d'avoir apporté cette contribution. Vous nous avez appelé des questions simples. Josaphat, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Josaphat.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Josaphat Mamba, je suis à Bukavu. Bon, par rapport à ce sujet, je voulais juste contribuer parce que les problèmes, c'est simplement des échecs qui sont occasionnés, pas simplement au niveau des élèves. Et je voulais juste le préciser. Parce que depuis 1960, la corruption a commencé ici dans la République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de nos professeurs qui sont passés par ce système de vagues communicants pour réussir, ils ont donné quelque chose. Et ce sont les mêmes professeurs, ce sont les mêmes enseignants qui sont en train de nous donner les cours aujourd'hui. Et nous sommes aussi en train de emmagasiner les lacunes que nous sommes en train de recevoir par rapport à nos enseignants, nos professeurs. Donc, c'est pour cela que je voudrais dire que si c'est à partir de cela, vous allez voir aujourd'hui. Je crois que j'ai été participé par un centre là où on faisait passer les examens d'État. Il y avait toute une série de élèves qui étaient là avec le système qu'on appelle ici chez nous, les mutuelles. Je ne sais pas, les mutuelles sont des réponses sous forme numérique qu'on avait déjà avant que l'examen puisse se passer. Il y a déjà les réponses avec les chiffres bien spécifiés que les élèves avaient déjà. Et quelqu'un qui est déjà au courant qu'il y aura des systèmes là que je suis en train d'appeler les mutuelles, c'est ce qu'on appelle ici à Bukavu les mutuelles. L'élève est déjà au courant que, quel que soit, je peux ne pas étudier, l'essentiel pour moi c'est de réussir. Et les mutuelles viennent où? C'est à partir de Kishasa. Et là, je peux dire que c'est les façons qui commencent à courir par la tête. Parce que c'est Kishasa qui est en train de fournir les mauvaises réponses aux élèves ici, dans les provinces. Et les élèves ne sont plus le courage de se concentrer beaucoup aux matières, d'étudier pour voir comment ils peuvent décrocher leur diplôme. Parce qu'à notre époque, ce système de mutuelles n'existait pas. Aujourd'hui, vous allez voir, à 0 heure, un examen qui doit se passer le lendemain. Au lendemain, mais à 0 heure, les élèves ont déjà des résultats, déjà chiffrés, codés, ils ont déjà fait dire, et quand ils arrivent devant les élèves, au lieu d'utiliser le système, au lieu de pratiquer ce qu'il a reçu, ce qu'il a étudié à l'école, ils commencent directement à faire le copier-coller. Ce système de copier-coller. C'est ce qui peut occasionner pour moi de ma part l'échec.
Voilà, donc, selon vous, Josaphat, l'échec est lié également à la tricherie. Donc, les jeunes gens qui font confiance à ce qu'ils appellent les bacs, les items qui sortent avant les examens, et c'est cela qui occasionne beaucoup d'échecs et vous justifiez d'ailleurs les échecs en masse par rapport à ça. Enoch, vous êtes à Bounia. Bonjour Enoch.
Oui, bonjour monsieur.
Oui, alors est-ce que vous partagez les avis de vos prédécesseurs?
Bon, de toutes les façons, moi je vais intervenir d'abord dans le cadre où vous avez parce qu'il y avait quelqu'un, le ministre avait parlé que l'ordinateur est automatisé pour courir les cahiers d'items de l'examen d'État. Et alors, ils disent que non, l'examen d'État, là, c'est le corrigé automatiquement, que non, ils ont déjà conçu cela, c'est bien plus intelligent que l'homme. Moi, je refuse cela parce que d'abord, la machine a été conçue par l'homme pour un certain type qui est intelligent que l'homme. Parce que c'est négatif. Et de deux, lorsque vous parlez de l'échec, qu'il y a eu beaucoup d'échecs cette année, cela c'est normal et c'est naturel, cela n'est pas seulement la négligence des élèves, mais ça dépend d'une école à une autre. Et je dis que dans chaque école, ils ont quand même conçu des règlements que les élèves doivent suivre. À moins que les finalistes aient boycotté ce règlement, c'est un moment qui peut quand même conduire des échecs. Et en ce cas, si je parle d'exemple d'une école ici à Bounia, afin que les collections du gouvernement une nouvelle session, c'est ce qui peut conduire à la vie de l'examen du sang qui déforme certainement, mon examen n'est pas composé et donc et donc chercher et puis moyen d'aller s'inscrire dans une autre sphère. Est-ce que vraiment ça c'est normal? Quelqu'un va toujours passer l'examen base dans un état vraiment en centralité et ça va toujours l'embrouiller. Et comprendre à quel état les élèves peuvent réagir d'abord à cette question. Et alors, c'est ça qui a posé vraiment
beaucoup de choses par rapport à ce résultat. Merci, Emma. Merci beaucoup, Emma, d'avoir appelé des Bougnas. Virgile, vous êtes à Ouvira. Bonjour, Virgile. Virgile, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Oui.
Oui, mais comment réagissez-vous par rapport à ce sujet? Deux semaines après la fin des épreuves de l'examen d'État, le ministère de l'EPSP procède déjà à la publication des résultats et au regard des résultats, d'ailleurs pour Kinshasa simplement, il y a une réduction un taux de réussite de moins de 6%. Voilà donc. Alors comment réagissez-vous par rapport à ce résultat?
Ok, merci beaucoup pour la parole. Je crois que l'État congolais doit prendre ses responsabilités à main. Aujourd'hui, on est en train de parler de la réduction du taux des réussites aux examens d'État. Je me dis, est-ce que réellement il y a eu réduction? Bon, réduction, on peut dire par rapport à l'année passée. Mais en réalité, moi je crois que le taux ne serait même pas de 60%. Vu le niveau d'études ou le niveau d'enseignement au Congo actuellement, j'allais même dire que ça devrait être 10% si réellement il y avait une certaine sérieuxité, objectivité ou rigueur là-dedans. Le niveau aujourd'hui dans notre pays a sensiblement baissé. C'est un secret de professionnel. Les raisons à ce sujet sont les gens. À titre d'exemple, nous pouvons citer le manque d'esprit d'émulation qui caractérise actuellement nos élèves. Vous voyez aujourd'hui les enfants qui sont en train d'étudier, c'est devenu une formalité seulement. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour.
Si je comprends bien Virgile, les responsabilités sont partagées. Le temps pour nous d'accorder la parole à Djamba Kaombe, si vous nous rejoignez. Bienvenue à parole aux auditeurs, c'est votre magazine 100% interactif. Aujourd'hui, nous parlons de l'examen d'État. Deux semaines après la fin des épreuves, le ministère de l'EPSP procède déjà à la publication des résultats. Monsieur Djamba Kaombe, vous êtes inspecteur général à l'EPSP, vous avez suivi également à la deuxième série des auditeurs. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'insiste beaucoup en disant que le 63% concerne la ville de Kinshasa pour les options non techniques. Les options techniques ne sont pas comprises dans ces 63%. Les autres provinces ne le sont pas non plus. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une petite confusion là. Par rapport à notre auditeur de
Kinshasa,
de Bukavu, qui a parlé du phénomène Michelet, nous en avons parlé avant la session. Méfiez-vous des importeurs, ces gens-là qui fabriquent des requêtes de fausses réponses et qu'ils vendent aux élèves naïfs ce phénomène. A eu lieu un recueil de fausses réponses. Les gens prennent les anciens items 2010 qu'ils transforment en 12 et les élèves ont mis leurs notes de côté pour se fier à ces importeurs. J'avais bien prévenu des candidats avant la session. Méfiez-vous des importeurs. Alors, je sais que notre auditeur de Bukavu reprend. Bon, les résultats sont là. Les résultats sont là. Donc, il ne faudra pas qu'on continue à être naïf jusqu'à ce point dans ce pays. Vous avez suivi le cours dans une école de septembre en juin. Faites confiance à vos enseignants, faites confiance à vos notes, au lieu de vous agiter à la dernière minute pour y courir derrière les importeurs, qui ne sont que des vendeurs de vent. Donc,
Il y a un autre auditeur à Kinshasa qui a insisté encore, qui est revenu sur l'organisation de ces épreuves et aussi au niveau de la correction, parce qu'il a parlé, il a évoqué encore la délibération. Si vous pouvez encore revenir sur ça et éclairer la lanterne de vos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre d'ailleurs.
La correction qui est passé en 10 jours, je l'ai dit dans mon introduction, c'est parce que nous avons des machines pimpant neuves, des nouveaux scanners qui ont une grande capacité de traitement de copies. Quand vous, si vous venez ici au centre, vous trouverez plus de 200 personnes qui travaillent nuit et jour. Nous avons une équipe qui travaille de 8h à 18h et la deuxième équipe travaille de 20h à 6h du matin. 100 personnes le matin, 100 personnes le soir. Donc le travail avance à un rythme de fourmi. C'est un travail de fourmi qui se fait sans arrêt. Depuis que nous avons commencé le 29 juillet et juin jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais connu des interruptions. Même le 30 juin, pendant que les gens se reposaient, méditaient, nous, nous étions en plein travail.
Donc,
nous avons construit ce produit.
Oui, monsieur le secrétaire, donc, c'était pas.
Dans ce cas, réponse, nous avons aussi des machines très, très performantes.
Oui, donc, c'était pas la pression.
Congolais ne le croit pas, ça, je ne sais pas, ça n'engage que les auteurs.
C'était pas la pression.
La délibération n'a pas eu lieu. Ça, c'est de la méchanceté, c'est vraiment de la méchanceté. Nous sommes tous des enseignants, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Après la correction des examens, il y a toujours et toujours cette étape de délibération.
Donc, c'était pas la pression de Vodacom qui insistait plus pour qu'il y ait la publication, hein. Je sais pas, l'auditeur voulait dire qu'il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger, c'est une affaire des gros sous, c'est une affaire d'argent, alors, on fait des choses dans la précipitation.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vodacom ne nous gère pas, nous sommes gérés par l'État congolais, nous avons des devoirs vis-à-vis de l'État congolais, et vous avez affaire à des responsables que nous sommes. Nous ne pouvons pas comme ça, pour faire plaisir à Vodacom, bâcler le travail. Ça, c'est contre notre conscience. Le travail est fait en un temps record parce que nous avons des machines performantes. Nous avons des équipes, des hommes et des femmes qui font du bon travail de 8h à 10h et de 20h à 6h du matin. Venez visiter notre confrère, la journaliste de Zigzag est passée ici. Elle a trouvé comment les gens en sont au travail.
Alors, pendant que vous évoquez cela, toujours en rapport d'ailleurs avec l'examen d'État, il faut noter que c'est samedi 21, donc c'est samedi déjà, à 15h, l'heure de Kinshasa, l'équipe Zigzag, Dana Bolojois, Etienne Boutalema, vous propose une visite d'ailleurs de découverte au centre de correction de l'examen d'État à Kinshasa. Vous saurez un peu plus en rapport avec les coulisses des activités de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Donc, merci de noter ce rendez-vous de samedi avec toute l'équipe Zigzag, Nana Bolojois et Etienne Kalema. Nous avons Tari qui est à Ariwara. Bonjour Tari. Tari, vous êtes à Ariwara, vous êtes en ligne, hein, Tari. Bonjour. Voilà, Tari continue encore à parler avec ceux qui sont autour de lui. Marc, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Marc.
Bonjour Gilles et bonjour à tous les auditeurs.
Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. J'ai juste besoin de dire quelque chose par rapport à ce sujet.
Oui, allez-y.
Ne pensons pas que lorsqu'on publie les résultats bien avant, bien avant 2 semaines, c'est à montrer que le ministère de l'Enseignement travaille ou que l'enseignement a changé au Congo. Non, on se détrompe. Par contre, il n'y a rien qui avance. L'enseignement continue à se dégrader. Et ce ne sont que eux-là qui nous disent que non, l'enseignement est au rabais. Vous, qu'est-ce qu'on fait pour que l'enseignement ne soit pas au rabais? J'ai structuré mon propos en 4 points. La première faute en ce qui concerne mon gouvernement, du fait que le gouvernement ne sait pas réaliser le contrôle des écoles. École par école, savoir qu'est-ce qu'une école doit avoir pour avoir la promotion des 6e, des 5e, 6e. Nous trouvons ici des écoles qui étudient dans des conditions très bizarres. Il y a la 5e, il y a la 6e. Et c'est un peu difficile de voir dans quelles conditions ils étudient. Les enseignants qui donnent cours, il n'y a pas de suivi dans ce domaine-là. On ne se trompe pas. Nous tous, nous avons été aux humanités. Il n'y a pas de suivi. Deuxièmement, une mauvaise prise en charge des enseignants. Les enseignants ne sont pas bien pris en charge. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'est pas bien pris en charge puisse se nommer à bien donner un cours? Non, c'est très difficile. Par contre, il est fait pour juste les faire, puisqu'il n'a pas un travail en dehors de celui-là. Et bien sûr, c'est pas l'amour du pays qu'il le fait. Et en deuxième position, les écoles. Les écoles ne prennent pas leurs responsabilités du fait qu'il n'y a pas suivi des cours. Il y a certains enseignants qui ne donnent pas leurs cours comme il le faut, tout comme il y a les élèves qui n'assistent pas aux cours et l'école n'a pas de système de suivi. Nous avons dans les écoles de frères catholiques, il y avait des règlements disciplinaires très stricts. Mais actuellement, dans les écoles supérieures, c'est intéressant, nous retrouvons, mais ça laisse à désirer. Il y a des écoles qui n'ont pas de règlements, les appartiennent n'importe quel élève, adviennent n'importe comment. Il n'y a pas de suivi, et du côté des enseignants, et par rapport aux élèves. Et en troisième position, les parents. Les parents, je suis, et seulement, et là, je suis l'invité, je vais lui prendre par rapport, je reprends sa phrase, la vie, les enfants d'aujourd'hui, avec ce qu'ils sont, ils arrivent quelque chose le matin, et les soirs, ils font autre chose que ce que l'on avait dit. Non, mais, il est psychologue, je sais bien, et il sait que l'enfant n'est socialement bon, et c'est la société qui rend l'enfant mauvais. Si ces enfants-là sont devenus ce qu'ils sont, là,
c'est bon,
et les parents, mais comment peuvent-ils les condamner? Ici, et les parents d'abord à la maison, suivez bien les enfants. L'enfant qui fait partie au cours, qu'est-ce que vous avez étudié? Les parents passent à l'école, prendre les rapports à l'école par rapport à leurs enfants, je pense que ça fait marcher. Et par rapport aux élèves, les élèves ne prennent pas conscience de ce qu'ils doivent faire. Il y a ceux qui pensent carrément qu'ils étudient pour leurs parents, ou même d'autres qui, tellement qu'ils voient les gens qui ont étudié sans emploi, qu'ils prennent les études avec moindre valeur. C'est un peu ça. Les étudiants ne prennent pas conscience de ce qu'ils font. Et, depuis cette situation, je pense que ce qui s'est fait là, c'est vrai, c'est que les enfants se sont trompés bien avant d'être des résultats. Il y a eu des prix d'examen qui étaient sortis. Et maintenant, ils se sont donnés à ça. Et quand vous venez peut-être à travailler une série, que vous vous retrouvez dans la salle, il y a une autre série.
Voilà, Marc, nous retenons qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et les responsabilités sont partagées. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Bienvenue d'ailleurs à Parole aux auditeurs. Nous parlons de l'examen d'État, donc 2 semaines après la fin des épreuves de l'examen d'État. Le ministère de l'EPSP procède déjà à la publication des résultats. On se retrouve juste après le bulletin d'information pour la suite de ce programme.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue à Parole aux auditeurs, ce magazine 100% interactif de Radio Capi. Michel, vous êtes en Boujimaï. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, comment réagissez-vous par rapport à ce sujet?
Oui, en fait, en tout cas, nous sommes d'abord très contents de la publication qui s'est faite avec vous. Ou sinon, je vais un peu plus vite pour dire. On a dit que les résultats sont sortis 10 jours après. J'aimerais un peu savoir pendant combien de jours ils ont travaillé pour sortir ça après 10 jours. Et après ça, j'ai le regret que nous avons, c'est que pourquoi les lauréats ne sont qu'à Kinshasa, mais pas dans d'autres provinces. J'aimerais un peu que notre invité me réponde à propos de cela.
Voilà, Fiston, vous êtes à Kamina, vous êtes également enseignant. Bonjour Fiston et bienvenue à ce moment de Radio Capi.
Bonjour.
Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous dire, je partage le même point de vue avec l'inspecteur général, dans la mesure où ce qu'il dit là, c'est tout à fait normal. Les jours se ressemblent, mais ne sont pas les mêmes. Nous remarquons qu'ici, chez nous, les finalistes se font professionnels du tout. Il y a un certain temps où on ne termine même pas les programmes à cause de leur désordre. Et après ça, ils se laissent faire dans leur maquille à paille. Ils sont en train de répondre au rendez-vous de leur fiancé. Il y a un certain temps où ils négligent même nos professeurs, soit en disant que c'est le point qui va, quand on veut interroger. Voyez un peu ce que ça fait. C'est tout à fait normal. Il n'est pas dit que quand on est en sixième, on doit souffrir ici. Non! C'est tout à fait normal. Même nous, quand nous avons franchi l'université, il y a un certain temps, quand ça ne va pas, on doit échouer. C'est tout à fait normal. Ils doivent aussi échouer. Ils doivent accepter ces échecs là-bas. Mais c'est tout à fait normal. Ça peut leur encourager de bien évoluer.
Merci beaucoup, Fisson. Monsieur Djamba Kaoumbé, vous êtes inspecteur général à l'EPSP. Que répondez-vous à Michel, à Fisson, également l'intervention de Marc, hein, qui parlait d'ailleurs des inspecteurs qui devaient, en principe, éviter de participer à une forme de corruption, de tricherie bien organisée dans les secteurs. Donc, que répondez-vous à ces auditeurs? Oui, M. Djamba, Voilà, M. Jamba, le temps qu'on les mette à nouveau en ligne, nous allons lire quelques réactions des auditeurs qui nous ont écrit, des réactions que nous avons tirées de notre page Facebook. Imani Jean, qui est André, voilà, de Bukavu, qui dit, voilà, enfin, le résultat du désordre qui règne au sein du ministère de l'EPSP. Les finalistes ont choisi la facilité par la fuite des questionnaires au lieu de prendre la préparation au sérieux, donc, de ces épreuves. Michel Gorbatchev Ndaka qui dit la tricherie aussi bat son plein dans ce secteur. Ne peut-on pas prendre des mesures pour mettre fin à ce fléau qui gangrène le secteur éducatif? Le phénomène appelé communément maïs surtout doit être banni. Fiston Jacques Massati de Gouma dit il n'y a rien de plus étonnant par rapport à ce résultat de 60%. Les conditions de vie des enseignants et même de certains élèves sont tellement mauvaises, il faut à mon avis apprécier ce résultat, même si c'est encore une estimation. John Biamungu de Goma dit « Je me demande si ces résultats actuels sont crédibles. À la veille des examens, on retrouve déjà des questionnaires, donc des items qui circulent entre les mains des finalistes à Goma et on se demande le sort de Kinshasa. » Ben Jafet Ouezo de Bukavu dit « Beaucoup d'élèves se sont donnés à la tricherie au lieu de se préparer pour ces épreuves. » Et Mwindo dit pratiquement la même chose en disant « On récolte que ce qu'on a semé. » Et cette baisse des taux des résultats se justifie bel et bien car il y a du désordre au sein du ministère de l'enseignement. C'est à eux de voir s'ils ont bien travaillé ou pas dans ce secteur. Nous allons prendre juste quelques propos de ministre de l'enseignement, Makir Mangou, qui disait, je cite, « Nous allons mettre 30 à 45 jours pour terminer cette publication. Donc d'ici la fin de la semaine, nous allons poursuivre avec les Bakongo, les deux Kassai, les Katanga et le reste des provinces. Donc 30 à 45 jours, si nos calculs sont bons, d'ici au 9 août, tous les résultats seront déjà sortis. » Voilà, nous avons en ligne l'inspecteur Jamba Kaombe, qui est inspecteur général à l'EPSP. Inspecteur, vous êtes à nouveau en ligne?
Oui, monsieur le journaliste.
Voilà, donc je disais tantôt avec les propos du ministre Makair Mangou, le ministre de l'EPSP, qui disait, je cite, « Nous allons mettre 30 à 45 jours pour terminer cette publication. D'ici la fin de la semaine, nous allons poursuivre avec le Bas-Congo, les deux Kassai, les Katanga et les restes des provinces. Si mes calculs sont bons, disais-je, d'ici au 9 août prochain, tous les résultats seront sortis. »
Affirmatif, affirmatif. Nous venons de publier le Bas-Congo 1 et 2, de Kassai Occidental 1 et 2 de Katanga. Maintenant, nous avons là en chantier le 3 Kassai Oriental 1, 2, 3. Nous avons le Nord Kivu 1 et 2. Nous avons aussi le Maniema pour avant la fin de la semaine.
Avant la fin de la semaine. Alors, Ben Jafet, un auditeur qui nous a envoyé sa réaction, qui a été déposée donc sur notre page Facebook, dit « J'ai demandé aux autorités de revoir ou peut-être comment changer la méthode des cotations, faire comme à l'école primaire, 50% école, 50% ex-état. » Je crois que c'est pratiquement ce qui est fait.
C'est ce qui est fait. Nous prenons en compte, bon, c'est un processus. Lorsque l'écart est accepté, la différence entre la moyenne de l'école et la moyenne de l'examen d'État, on prend le point de l'école qui est 100, le point de l'examen d'État qui est 100, et si 200, on le divise par 2. C'est ce que nous avons toujours fait.
Alors comment on arrive à avoir des écoles où l'enseignement de qualité est dispensé, malgré qu'au niveau de l'école, il y a de bons résultats, ces écoles ont fait des néants ou encore des pourcentages trop bas, ce qui veut dire qu'à l'examen, c'était vraiment très criant, donc l'écart était très criant.
Oui, il y a des gens qui ont fait des échecs profonds au niveau de l'examen d'État, surtout dans les branches d'option. Les gens qui ont fait dans certaines branches en mathématiques, par exemple, vous voyez 24% de réussite au niveau de l'examen d'État, ça sort, ça creuse l'écart et les points scolaires sont rejetés. À ce moment-là, quand les points scolaires sont rejetés, les candidats sont traités comme autodidactes et là, il y a le plus fort qui réussit. Donc, on doit tout faire pour que les deux moyens, la moyenne de l'école et l'examen d'État, se rapprochent l'une de l'autre par la qualité des enseignements. Je suis en train de conclure la qualité des enseignements, nous devons les relever. Et cessons quand même d'être négativistes dans cette république. On vous dit que le Centre national de correction a acquis des équipements sympas neufs, ce qui fait que nous venons de corriger en 9 jours, en 10 jours, Bien que bien le premier résultat, non, il n'y a pas eu correction, il n'y a pas eu délibération. La délibération, ce n'est pas une séance solennelle dans un stade de football. La délibération se fait à huis clos. Nous avons bel et bien délibéré avant la publication. Ne soyons pas ces prophètes de malheur pour cette république. Les gens qui disent toujours Mboko est au bon gâté, Mboko est au bon gâté. Nous fournissons quand même des efforts quelque part. Ayons confiance à l'avenir de ce pays. Ne soyons pas trop négativistes. C'est ça le mot de la fin.
Oui, ben, nous serons à la fin donc, dans deux minutes, M. Djamba. Quelles sont les plaintes déjà reçues à votre niveau, au niveau de l'inspecteur, de l'inspection générale, l'EPP, quant à la publication qui se poursuit?
Bon, nous sommes encore en train de recevoir les plaintes. Et quand vous voyez, c'est toujours mon enfant, toujours été le premier de la classe, il n'a jamais échoué, tout ça. Et personne n'accepte son échec. Mais lorsque nous interrogeons les machines, nous trouvons que quelque part l'enfant a trébuché dans une journée, surtout dans les branches de sciences. Quand nous creusons, nous trouvons que quelque part l'enfant s'est trompé de code. Et il ne maîtrise pas le code. Et c'est ça un peu. Nous aurons des séances d'animation à travers nos inspections principales provinciales. Bientôt d'ailleurs, tous les inspecteurs de province seront ici. Nous allons les instruire pour arriver à corriger ces imperfections au niveau des écoles et au niveau des enseignements. Et nous verrons, nous allons tirer les performances école par école, journée par journée, pour que des séances de remédiation soient réalisées dans les écoles pour que l'année prochaine, les résultats soient quand même au-dessus de ceux de l'année passée, de cette année-ci.
Oui, Marc, un auditeur, a relevé le problème de suivi au niveau, parce que nous avons pas mal des IPP, pas mal de provèdes, nous avons pratiquement autant de inspecteurs, mais on ne sait pas comment se fait le suivi, parce qu'il y a des écoles où, comme vous l'avez dit, des élèves migrateurs qui sont dans toutes les écoles, pendant toute la formation, tous les cursus secondaires, mais est-ce qu'au niveau des inspections, il y a quand même un suivi qui se fait chaque année?
Bon, ça, c'est l'affaire de tout le monde. Hein. Les parents, les inspecteurs, là, j'ai un appel à la conscience de tout le monde. Hein. Les parents qui doivent parfois accepter que les enfants reprennent les classes, les titulaires de classe, ne pas falsifier les bulletins, les chefs d'établissement, établir le véritable palmarès et non pas faire des palmarès parallèles où ils font passer des élèves qui ont échoué et d'autres palmarès vrais qui les envoient à l'administration. Au niveau des collègues inspecteurs, ouvrons l'œil et le bon au mât du contrôle. Lorsque quelqu'un n'a pas réussi la classe antérieure, il faut le débarquer s'il rentre dans la classe antérieure ou qu'on fasse de lui un autodidacte. Et ce côté-là, il y a un peu de complaisance. Nous devons aussi faire un effort pour pouvoir nous assumer et mettre fin au phénomène de migration des élèves. Ce qui fait que nous nous retrouvons en sixième avec des élèves qui n'ont pas suivi un cursus normal, un parcours normal, et ils vont échouer à l'examen de temps, tout en oubliant qu'ils ont un mauvais passé.
Voilà, merci.
En troisième, en quatrième, cinquième, ils ont eu des faux succès, et ils veulent réussir toutes et toutes au niveau de la sixième.
Merci, M. Djamba Kaombé. Nous rappelons que vous êtes inspecteur général à l'EPP. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en œuvre de cette émission. Titi Poutou et Pierrot Lamé, ils l'ont réalisé. Et Jérôme Gembo vous l'a présenté sous la supervision de Nikon Gaka. Laissez on continue sur notre site web www.radiocapi.net. Il s'est ouvert à Kinshasa depuis le lundi dernier un atelier organisé par le ministère de l'Intérieur sur le transfert des compétences vers les provinces. Ces assises, selon les organisateurs, s'inscrivent dans les cadres de la promotion de l'autonomie des gestions de certaines taxes cédées aux entités décentralisées. Que pensez-vous de cette démarche dans l'autonomie des gestions des provinces? Inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir, parce que c'est le débat de demain, à l'adresse pa@radiocapi.net. Vos commentaires et préoccupations sont les bienvenus et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À tout de suite.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
À présent,